Chapitre 14. La volonté d'un dragon. Le bois flotté, trop humide, ne voulait pas prendre. Alors que Rain était aux prises avec l'amadou que le vent ne cessait d'éteindre, Malta retira sa cape et la fourra dans l'amas de bois. Il leva les yeux en entendant un grand fracas. Elle avait brisé leur lanterne sur le tas. Peu après, des flammes léchaient les bords de la cape et il entendait, rassuré, le crépitement bienvenu du bois qui prenait feu. Malta était venue s'abriter sous la cape de Rain. Yémin leur jeta un regard singulier. Elle pointa le menton et le toisa d'un air de défi. Elle pressa fermement son corps trempé et tremblant contre Rain. Dans l'obscurité qui les protégeait, il la serra en humant le parfum de ses cheveux. Il eut la hardiesse de l'embrasser sur le sommet de la tête. Les fines écailles de sa crête lui râpèrent un peu la joue et Malta eut un frisson involontaire. Il sentit une vague de chaleur affluer en elle. Elle leva les yeux vers lui, la surprise intensifiant l'éclat de ses yeux du désert des pluies. « Rain !» fit-elle haletante, à la fois ravie et scandalisée. « Tu ne devrais pas » gronda-t-elle sur un ton guindé.
« Tu es sûre ?» demanda-t-il tout près de son oreille.
« Pas quand mon frère nous regarde !»
se reprit-elle le souffle court. Le feu flambait haut à présent. Rain leva un regard anxieux vers le ciel. Il n'avait pas entendu Tintaglia passer au-dessus d'eux depuis un certain temps, mais l'angoisse du dragon pesait avec force et se communiquait à lui. Il devait être encore là-haut quelque part. Rain parcourut des yeux les gens qui étaient venus avec eux sur la plage. L'île puante portait bien son nom. Ils étaient tous dans la vase jusqu'aux genoux et Rouge, à son grand dégoût, était tombé et regrettait probablement le désir qu'il avait eu de voir un dragon de près. On alluma un second feu avec le premier. Sur l'eau, les navires se mirent soudain à pousser des cris et le dragon leur répondit de loin. Rain lança un avertissement.
« Écartez-vous !»
Tintaglia descendit dans un lourd battement d'ailes, luttant contre la pluie et les bourrasques de vent. Rain s'attendait qu'elle atterrisse avec grâce, délivrée qu'elle était de son fardeau humain. Mais, comme Sorcor l'avait dit, la vase était trop glissante. Les pattes raidies du dragon dérapèrent et la boue vola de tous côtés sous ses violents coups de queue et ses battements d'ailes. Elle freina juste devant le feu. Elle était furieuse d'avoir perdu sa dignité et ses yeux flamboyaient. Elle secoua ses ailes ruisselantes et éclaboussa les humains encore un peu plus.
« Pourquoi as-tu choisi cette plage, espèce d'imbécile ? »
demanda-t-elle furibonde, puis elle ajouta
« Il n'y a rien à manger ?»
Elle se plaignit tout le temps qu'elle mit à dévorer deux têtes de porc et de la viande salée.
« Mauvais, collant, trop petit pour mordre comme il faut !»
déclara-t-elle à la fin de son repas, et elle s'éloigna pesamment vers une source voisine.
« Il est immense !»
s'exclama Sorcor, émerveillé. Rain prit conscience qu'il s'était habitué à sa magnificence. Malta avait ses souvenirs de la boîte à rêves, mais, pour les autres, c'était la première fois qu'ils avaient l'occasion de voir un dragon posé à terre.
« Il est d'une beauté, à la fois dans sa forme et dans ses mouvements !»
murmura Ambre.
« Je vois maintenant ce que voulait dire Parangon. Seul un authentique dragon est un dragon. Tous les autres ne sont que pâles imitations. »
Jack jeta à Ambre un regard dédaigneux.
« Les dragons des six duchés me conviennent très bien. Ils t'auraient convenu aussi si tu avais vécu dans la peur d'être forgisé. Mais,
admit-elle à contre-cœur,
il est étonnant. »
Rain se détourna de leur conversation inintelligible.
Je me demande à quoi aurait ressemblé Vivacia,
dit Althea à mi-voix. Le feu dansait dans ses yeux fixés sur la silhouette obscure du dragon.
Ou les dragons de Parangon,
compléta Brashen par loyauté envers son navire. Rain éprouva un soupçon de remords en entendant ces paroles. sa famille avait transformé les dragons en navires. Faudrait-il un jour rendre des comptes? Il chassa cette pensée. De son pas lourd, Tintaglia revint de la source. Elle avait nettoyé la boue de ses ailes et de son ventre. Elle adressa à Rein un regard mauvais de ses yeux argentés.
« J'avais dit sable !»
fit-elle sur un ton de reproche. Elle balança sa grande tête pour examiner le groupe des humains.
« Bien !»
salua-t-elle. Elle passa sans transition des plaintes aux exigences.
« Il faut faire un autre feu, plus éloigné des vagues, là où commencent les rochers. La pierre n'est pas un lit idéal, mais c'est mieux que la vase. » Et il faut que je me repose cette nuit. »
Alors, elle aperçut Malta. Ses yeux se mirent à tournoyer et luire comme des pleines lunes.
« Avance dans la lumière, petite sœur, que je te vois. »
Rein craignit que Malta n'offense le dragon en hésitant, mais elle s'approcha hardiment pour se placer devant lui. Les yeux de Tintaglia glissèrent de sa crête à ses pieds. D'une voix chaude, elle déclara
« Je vois que tu as été bien récompensé pour la part que tu as prise à ma délivrance, jeune reine. Une crête écarlate, tu en tireras beaucoup de plaisir. »
Malta rougit, l'air perplexe, et le dragon gloussa avec affection.
« Quoi? Tu ne l'as pas encore découverte? Tu la verras, et tu jouiras d'une longue vie durant laquelle tu t'en délecteras. »
Elle reporta son regard sur Rein.
« Tu as bien choisi. Elle est faite pour être une reine des anciens et porte-parole des dragons. Selden sera ravi qu'elle ait changé aussi. Il s'inquiétait un peu, tu sais, qu'elle fasse des remarques désobligeantes sur sa transformation. »
Rein eut un sourire gêné. Il n'avait pas encore informé les Vestrites des changements qui s'étaient opérés chez Selden. Tintaglia interrompit leur échange de coups d'œil déconcertés.
Je vais dormir toute la nuit et je demande à manger pour demain matin. Le nœud se repose loin d'ici au nord, et ils sont en sécurité au moins pour cette nuit. »
Elle cligna les yeux et l'argent tourbillonna froidement.
« Je me suis débarrassé de ceux qui ont osé les menacer, mais mes serpents sont exténués. Les serpents, même en bonne forme, ne peuvent pas soutenir l'allure d'un dragon ailé. Jadis, nous étions plusieurs à les surveiller, et il y avait des serpents qui les guidaient grâce à leur mémoire. Et ils n'ont que moi et un seul guide serpent. »
Elle leva la tête avec détermination, mais Rein sentit du désespoir derrière son intrépidité. Malgré son arrogance, il en eut le cœur serré.
« J'ai parlé au vive nef. Parangon va accompagner mes serpents vers le nord. Son équipage va m'aider à les protéger et mouillera toutes les nuits à côté d'eux quand je devrais aller à terre pour me nourrir et me reposer. »
Yéma eut l'audace de prendre la parole.
« Les deux vives nefs vont aller au nord. Nous avons déjà pris la décision. »
« Cela ne m'intéresse pas le moins du monde !»
interrompit rudement le dragon.
« Crois-tu encore posséder les vives nefs ? Vivacia ira vers le sud, dans ta grande cité avec mes anciens, pour parler en mon nom, afin d'organiser les chargements de céréales et de vivres pour les ouvriers, d'embaucher des constructeurs à la convenance de Rein, d'informer le peuple de cette ville des exigences des dragons, d'arranger... »«
Exigences ? »
interrompit froidement Yéma. Il s'était raidi d'indignation. Excédé, le dragon fit volte-face vers Rein.
« Tu ne leur as rien dit? Tu as eu toute la journée !»«
Tu ne te souviens peut-être pas que tu m'as lâché au beau milieu d'une bataille navale ?»
demanda Rein, irrité.
« Nous avons passé le plus clair de la journée à essayer de nous en sortir vivants.
Je me souviens bien que mes serpents ont été exposés au danger pour servir des intérêts uniquement humains. Vous êtes toujours en train de vous quereller et de vous entretuer. »
Elle les foudroya tous du regard.
« Ce ne sera plus toléré. Vous mettrez tout ça de côté jusqu'à ce que mes objectifs soient atteints, au risque de subir mon courroux. »
Elle rejeta haut la tête et souleva à demi les ailes.
« Ceci aussi sera du ressort de mes anciens. Aucun navire ne sera autorisé à déranger un serpent. Aucune guerre mesquine ne sera tolérée si elle doit gêner le transport du matériel vers le désert des pluies. Vous ne... »
Yémin était hors de lui.
« Quelle sorte d'animal es-tu pour chercher à diriger nos vies de force? Nos rêves, nos projets, nos ambitions ne comptent donc pour rien dans ton univers ?»
Le dragon marqua une pause et tourna la tête comme s'il réfléchissait avec gravité à ses questions. Puis il pencha vers lui sa tête immense, si près que ses habits frissonnèrent sous son souffle.
« Je suis un dragon humain. Dans l'univers, vos rêves, vos projets, vos ambitions ne comptent pour presque rien. Vous ne vivez pas assez longtemps pour avoir de l'importance. »
Il s'interrompit. Quand il reprit la parole, Reine devina qu'il s'appliquait à adoucir sa voix.
« Sauf quand vous venez en aide aux dragons, bien sûr. » Lorsque vous aurez achevé cette tâche, mes semblables se rappelleront des générations durant le service rendu. Les humains peuvent-ils espérer un plus grand honneur?
Et si nous espérions vivre jusqu'au bout notre petite vie insignifiante comme nous l'entendons?
Rétorqua Yémin. Il ne recula pas devant le dragon qu'il bravait. Reine reconnut à ses épaules crispées et à sa moue qu'il s'agissait bien du frère de Malta. Il partageait avec elle sa nature entêtée. Le dragon commençait à gonfler le jabot.
Malta se hâta de s'interposer entre son frère et Tintaglia. Elle les regarda l'un après l'autre sans crainte. « Nous sommes tous fatigués, trop fatigués pour négocier comme il faut cette nuit. »«
Négocier ?»
s'exclama le dragon en renâclant de mépris.
« Oh non, ça ne va pas recommencer, les humains et leurs négociations !»«
C'est beaucoup plus simple de tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi ?»
avança Yémin d'une voix acide. Malta posa une main apaisante sur le bras de son frère.
« Nous devons tous aller dormir !»
déclara-t-elle fermement.
« Même toi, Tintaglia, tu as besoin de repos. » Demain, nous serons dispos et chacun pourra énoncer ses désirs. C'est la seule façon d'arriver à une solution.
Le dragon fut le seul à jouir d'un peu de sommeil, songeait Althea. Les humains se rassemblèrent à bord du Bouffon, cette fois-ci, car le capitaine rouge s'était targué d'avoir du café et une chambre des cartes un peu plus vaste. À son corps défendant, Althea commençait à admirer le talent que déployait Malta dans les négociations. Sa nièce tenait de Ronica une certaine habileté dans les affaires, mais c'était surtout son charme naturel qui agissait. Son premier exploit avait été d'obtenir que les nobles jaméliens soient assis avec eux à table. Althea avait surpris des bribes de sa discussion chuchotée avec le gouverneur offusqué.
« Il faut vous les attacher en servant leurs intérêts. » Si vous les écrasez trop, ils seront toujours comme des roquets sournois à vos talons. Ainsi, vous vous assurerez qu'ils ne désavouent pas le traité plus tard,
avait-elle insisté avec chaleur.
Chose étonnante, le gouverneur avait accédé à ses demandes.
Son second trait de génie avait été de prévoir un repas pour tous avant qu'ils se réunissent. Quand ils s'étaient finalement rassemblés autour de la table de rouge, les esprits s'étaient pacifiés. Malta et Reine s'étaient aussi consultées en secret, car elle se leva et annonça qu'il ne pouvait commencer avant qu'elle n'ait communiqué de plus amples informations sur les derniers événements de Terrilleville. En dépit de l'intérêt personnel qu'elle portait au récit de Malta, Althea se surprit à observer les visages autour d'elle.
Les nobles jaméliens avaient l'air accablés, et ils avaient enfin pris la mesure de la trahison chalcédienne. Éta écoutait en silence, attentivement. Ambre ne quittait pas Yémin des yeux, elle le contemplait avec une expression presque tragique. Brachen à ses côtés était particulièrement silencieux, mais sa main était chaude sous la table. Il ne parla qu'une seule fois quand Rein se mit à évoquer les dégâts causés à Troynous par le tremblement de terre. Il se pencha en avant pour réclamer l'attention en tapant légèrement sur la table, et il s'adressa directement à Rein.
« Les affaires du désert des pluies doivent-elles être discutées si ouvertement devant des tiers ?»
Rein ne se formalisa pas. Il inclina gravement la tête et répondit
« Nous avons découvert que, si nous ne voulons pas périr, nous devons faire partie du monde. Je ne dis rien qui n'ait été publiquement exposé lors d'une réunion à Terrilville. Le temps est venu de partager nos secrets si nous ne voulons pas mourir avec eux. »
« Je vois. » acquiesça gravement Brachen et il se radossa à sa chaise.
Quand Rein eut fini de parler, Yémin attira l'attention en se levant. Et il semblait trop fatigué pour rester debout. La note de résignation amusée qu'Alté aperçut dans sa voix l'a surpris.
À la lumière de ce que nous a dit Rein, et considérant la nature des Vivnef, je crois que nous devons nous plier au désir de Tintaglia.
Si les Vivnef sont d'accord avec elle, je ne pense pas que nous ayons le choix,
renchérit Althea. Rein s'adressa à Malta, mais tous entendirent.
Tu préférerais rentrer directement à Terrilville plutôt qu'aller à Jamelia?
Le regard de Malta volta de sa tante à son frère. Elle ne baissa pas la voix en le regardant en face.
J'irai où tu iras.
Un petit silence suivit ses paroles. Elle le rompit avec courage en se tournant vers le seigneur Kriat.
« Alors, vous avez entendu. Le dragon désire que nous négocions afin que des vivres soient expédiés au désert des pluies. Il reste à voir lequel des nobles fidèles du gouverneur aura le privilège d'être notre fournisseur. »
Kriat fronça les sourcils, perplexe. Malta soutint son regard, attendant qu'il saisisse la valeur de sa proposition. Enfin, il s'éclaircit la gorge, hocha la tête vers ses compagnons en quête de leur soutien.
« Gouverneur Magnadon Kosgo, je crois que je ne suis pas le seul désormais à accepter la sagesse de votre alliance. En fait, »
il sourit à Malta,
« je voudrais proposer mon assistance aux représentants du dragon. Mes propriétés à Jamelia comptent des champs de céréales et du bétail. Un commerce qui nous profiterait mutuellement avec le désert des pluies pourrait amblement compenser les pertes auxquelles je dois me résigner après avoir renoncé à mes octrois de terre à Terrilville. »
Ils passèrent la plus grande partie de la nuit à chicaner. Althea gardait le silence, ahuri d'assister à la réorganisation de son univers. Tintaglia était bien avisée d'envoyer ses anciens à Jamelia pour parler en son nom. Il n'allait pas seulement ouvrir des voies commerciales entre Jamelia et le désert des pluies. Rein, avec son visage écailleux, amènerait les Jaméliens à envisager l'avènement d'un nouveau monde aux yeux cuivrés. Recrue de fatigue, Althea se sentait flotter, détachée de la scène qui se jouait autour d'elle. Par un décalage de ses sens, elle perçut un moment critique, comme une vaste étendue qu'ils avaient laissé derrière eux et un courant rapide qui les entraînait en avant. Ce nouveau monde de dragons et d'hommes serait ordonné par la négociation plutôt que par la guerre. Ici, dans cette pièce, il créait un précédent. Soudain, elle comprit. Elle chercha à capter le regard d'Ambre, mais le charpentier du navire considérait Yémin tristement.
Les nobles jaméliens ne humaient que l'odeur du profit et du pouvoir. Ils ne tarderaient pas à se disputer férocement pour fixer les prix des céréales, à tenter de s'arroger des droits sur Terrilville.
Mais Rein et Malta mirent fermement les choses au point.
Althea constata avec soulagement qu'ils négociaient pour leurs semblables avec autant d'habileté que pour le dragon. À mesure que la nuit avançait, la plupart des discussions se déroulaient entre les nobles à propos d'accords secondaires,
le gouverneur qui déterminait le pourcentage de leurs profits destinés au trésor, les capitaines qui soutenaient Yéma et Eta quand ils rappelèrent aux autres l'acquittement d'une taxe sur les marchandises transitant par les îles des pirates.
Althea se réveilla en sursaut au coup de coude de Brashen.
« Ils ont fini !»
chuchota-t-il.
Autour de la table, on signait des papiers tandis que Yéma donnait le bras à Eta. Elle le dédaigna, resta à l'écart en roulant des épaules.
Althea essaya de s'étirer discrètement. Combien de temps avait-elle fermé les yeux?
« Est-ce que la discussion a eu un rapport avec nous ? »
s'inquiéta-t-elle à mi-voix.
« Ne crains rien. Rein et Malta ont bien défendu Terrilville, et quand on en arrivait au point délicat, Terrilville et les îles des pirates ont fait cause commune. »
Il eut un rire bref.
« Je me demande ce que ton père aurait pensé de tout ça. Il aurait été sacrément fier de Malta, pour autant que je sache. Cette femme est le marchand le plus intelligent que j'ai vu. »
Althea éprouva une pointe de jalousie devant l'admiration de Brashen pour sa nièce.
« Et maintenant ? » s'enquit-elle doucement. Tout le monde était debout. Un mousse somnolent ramassait les chopes de café sur un plateau en argent.
« Et maintenant, on peut avoir quelques heures de sommeil avant de faire nos adieux et de mettre les voiles. »
Il ne la regarda pas. Elle le suivit sur le pont. L'air froid de la nuit était bienvenu après la touffeur de la chambre des cartes. La pluie avait cessé.
« Tu crois que le dragon va accepter nos conditions ?»
Brashen se frotta les yeux d'un geste las. « Nous lui demandons seulement son aide pour accéder à ses exigences. Mettre un terme aux luttes territoriales dans la passe intérieure. La meilleure façon d'y parvenir, c'est d'en chasser les Chalcédiens. Après ce qu'ils ont fait à ces serpents hier, je crois qu'il sera ravi de nous y aider. Tout le reste n'était que chamaillerie entre les autres parties. »
Il secoua la tête.
« Je crois que c'est fini. Il n'a plus qu'à nous dire ce qu'il veut que nous fassions. »
« Cela m'inquiète moi aussi, »
renchérit Althea.
« Nous avons tellement lutté, nous sommes venus de si loin sans aucune certitude pour voir tout à coup un dragon décréter
« Voilà comment sera votre vie !»
Cela ne me plaît pas qu'il dirige nos actes, qu'il décide qui ira ici ou là. Et pourtant... »
Elle haussa les épaules en riant à demi. Bizarrement, ce serait presque un soulagement de voir les décisions nous échapper. Comme si on nous enlevait un fardeau.
Certains peuvent le considérer de cette façon, répondit Brashen amèrement.
Ohé, Terrilville !
Un cri de Sorcor les interrompit.
Attention au courant !
Conseilla le capitaine pirate en descendant dans son canot.
« Il est traître ici, quand la marée change. Vous feriez bien de vérifier vos ancres et de laisser un bon marin de quart. »«
Merci, »
répondit Althea.
Ce qu'elle avait vu du robuste pirate lui plaisait. Il contraria Eta en veillant avec sollicitude à ce qu'elle regagne en sécurité le canot de Vivacia.
Malta s'appuyait à l'épaule de Rein en attendant Yéma.
Althea fronça les sourcils en le remarquant.
Quelque chose de plus curieux attira alors son attention. À sa grande surprise, Ambre était aussi dans le canot de Vivacia.
Je l'ai entendu dire à Yéma qu'elle devait s'entretenir avec lui d'une question importante. Il était réticent, mais elle a insisté. Oh, tu sais à quel point elle peut être inquiétante quand elle prend cette tête-là.
Ces précisions venaient de Jack, qui avait surgi près d'Althea.
Alors nous ne sommes que trois à retourner sur Parangon cette nuit?
« Deux ?»
reprit Jake avec un grand sourire.
« J'ai été invité à rester à bord du Bouffon. »
Althea chercha autour d'elle et aperçut un beau pirate appuyé à un mât. Il attendait.
« Deux ?»
approuva-t-elle, et elle se tourna pour échanger un coup d'œil avec Brashen.
Il avait disparu. Elle regarda par-dessus bord et le vit ajuster les avirons dans les tôlées.
Hey!
Cria-t-elle irritée. Elle glissa plus qu'elle ne descendit le long de l'échelle et fit tanguer exprès le petit canot en s'affalant à l'intérieur.
« Tu aurais pu m'avertir que t'étais prêt à partir ? »
fit-elle sèchement. Il la dévisagea, les yeux ronds,
puis il tourna la tête vers le canot de la Vivacia.
« Quand Ambre est descendue, j'ai supposé que vous partiez toutes les deux. »
Elle suivit l'embarcation des yeux puis reporta le regard vers l'endroit où elle savait que Vivacia se balançait à l'ancre. Il faisait trop sombre pour distinguer sa forme. Vivre une dernière nuit à bord de son navire avant de lui dire adieu? Peut-être aurait-elle dû. Elle perçut soudain un étrange écho dans sa mémoire, comme si elle avait déjà pris cette décision auparavant. Le jour de l'éveil de Vivacia, elle s'était disputée avec Kyle et avait quitté le navire hors d'elle pour gaspiller la soirée à boire avec Brashen. Elle n'avait pas dit adieu à son navire alors. Elle n'avait cessé depuis de le regretter. Si elle avait passé cette première nuit avec Vivacia, les choses auraient-elles tourné autrement? Elle regarda Brashen avec les avirons suspendus au-dessus de l'eau. Serait-elle revenue en arrière? Aurait-elle modifié ses décisions si cela avait impliqué qu'elle ne se retrouve pas avec lui ici, aujourd'hui? Mais c'était le passé. Vivacia n'était plus son navire. Elle l'avait reconnue toutes deux. Que restait-il à lui dire, sinon « au revoir ». Elle alla à croupetons s'asseoir à côté de Brashen.
« Donne-moi un aviron. »
Il lui en passa un en silence et ensemble ils nagèrent vers Parangon. Sorcor avait eu raison de les mettre en garde. Le courant était traître et Althea dut mettre ce qu'elle conservait d'énergie pour soutenir le petit canot dans sa route. Brashen se sentait tout aussi éprouvé car il ne prononça pas un mot durant le trajet de retour. Un cliff endormi attrapa leur filin et Semoy les accueillit à bord d'un air bourru. Brashen répéta l'avertissement de Sorcor à propos du courant au changement de marée et lui dit de poster deux hommes de quart à l'ancre puis d'aller dormir un peu.
« On pousse sur le nord !»
déclara aussitôt Parangon.
« C'est plus que probable !»
acquiesça Brashen sur un ton là.
Pour escorter les serpents de mer. C'est bien la dernière démarche que je prévoyais de faire, mais...
N'importe comment, il n'y a pas grand-chose ces derniers temps qui se soit passé comme je m'y attendais.
Tu ne vas rien me dire sur le dragon ?
Éclata Parangon.
C'est la première fois que tu en vois un de près, et tu ne racontes rien sur lui ?
Un sourire s'épanouit lentement sur le visage de Brashen. Comme il le faisait souvent quand il parlait au navire, il saisit la lisse. Il parla avec ferveur.
« Navire, il est au-delà des mots, tout comme une vive nef, et pour les mêmes raisons. »
La fierté gonfla le cœur d'Althea. Fatigué comme il l'était, Brashen avait la sagesse de reconnaître le lien qui existait entre le dragon et la vive nef. Mais il prenait garde de rien dire qui ferait sentir à Parangon avec plus d'acuité la perte de sa véritable forme.
« Et toi, Althea ?»«
Pas Kenith. Pas Kenith. Parangon. Parangon sur lequel elle avait joué petite fille. Parangon qui l'avait amené si loin, avait tant souffert à cause de la quête folle d'Althea. Pour ce Parangon-là, elle trouva les mots.
Il est extraordinairement beau. Ses écailles sont comme des joyaux ondulants, ses yeux comme un clair de lune sur la mer. Pourtant, en toute franchise, son arrogance était insupportable. Il tient tranquillement pour acquis que nos vies lui appartiennent et j'ai du mal à l'avaler.
Parangon se mit à rire.
Tu fais bien de t'exercer à la flatterie, car des reines comme Tintaglia se nourrissent de compliments plus que de viande. Quant à son arrogance, il est temps que les humains se rappellent quel effet ça fait de recevoir des ordres. »
Brashen retint un rire.
« C'est juste, navire, c'est juste. Surveille ton ancre cette nuit, veux-tu ?»«
Bien sûr. Dormez bien. »
Y avait-il un soupçon d'ironie dans ce souhait ? Althea se retourna pour le regarder. Il l'observait de ses yeux bleu pâle. Il lui fit un clin d'œil. C'était bien de Parangon cette remarque
et ce clin d'œil. Il n'était pas Kenneth. Elle haussa les sourcils en découvrant toutes ses affaires en tas dans un coin de la chambre de Brashen.
« J'ai dû installer Mère dans ta cabine, » dit-il presque confus.
Il y eut un instant de gêne. Puis elle vit le lit du capitaine pourvu de son généreux matelas, de ses couvertures épaisses, et elle ne songea plus qu'à dormir jusqu'à ce qu'on la force à se réveiller. Avec l'arrivée du dragon, il semblait que les décisions ne leur appartenaient plus. Autant se reposer jusqu'à ce qu'on lui apprenne la suite des événements. Elle s'assit sur la couchette en soupirant et retira ses bottes. La sueur avait séché sur sa peau et la vase de la plage avait pénétré ses vêtements. Elle se sentait poisseuse. Elle s'en moquait.
« Je ne me lave pas, » avertit-elle. « Je suis trop fatiguée. »
C'est compréhensible. Sa voix était devenue très grave. Il s'assit près d'elle. Avec des gestes doux, il lui dénoua les cheveux. Elle resta immobile sous sa caresse jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive qu'elle serrait les dents. Elle inspira. Elle était capable de surmonter. Avec le temps. Elle tendit le bras et lui prit doucement les mains.
« Je suis tellement fatiguée. Je ne pourrai pas dormir simplement à côté de toi cette nuit. »
Il parut accablé, puis il retira ses mains. « Si c'est ce que tu veux. » Il se leva brusquement. « Si tu préfères, tu peux avoir le lit pour toi toute seule. »
Son repli abrupt et son ton brusque la blessèrent. « Non, » dit-elle sèchement, « ce n'est pas ce que je préfère. C'est stupide. »
Elle se reprit et essaya d'arranger les choses.
Aussi bête que de commencer à se disputer alors que nous sommes tous les deux trop fatigués pour penser.
Elle se poussa sur le lit.
« Brashen, je t'en prie, je suis si fatiguée. »
Il la regarda fixement sans un mot, puis il se tassa, vaincu. Il revint vers le lit et s'assit au bord. Dehors, la pluie se remit à tomber dru. Elle crépitait sur la cloison, s'infiltrait par la fenêtre cassée. Il faudrait réparer cela demain. Peut-être pourrait-on tout réparer demain, enterrer un pirate, dire adieu à une vive nef, tout laisser derrière soi. Alors qu'il se débarrassait de ses bottes, il fit observer sur un ton maussade
« Peut-être n'ai-je plus de fierté. Si c'est ce que tu peux m'offrir de mieux ce soir, dormir à côté de toi, j'accepte. »
Il commença à déboutonner sa chemise. Il ne la regardait pas.
« Tu dis des bêtises. »
Il devait être au moins aussi fatigué qu'elle.
« Dormons. Il s'est passé trop de choses aujourd'hui pour qu'on puisse en venir à bout. Demain, ça ira mieux, et demain soir encore mieux. »
Elle l'espérait. Il lui adressa un regard meurtri. Ses yeux sombres n'avaient jamais semblé aussi vulnérables. Ses mains s'étaient immobilisées sur sa chemise.
« Brashen, je t'en prie. »
Elle lui écarta les mains et défit les trois derniers boutons, puis elle se poussa contre la cloison, quoiqu'elle eût horreur d'être confinée. Elle lui tira l'épaule et le fit allonger à côté d'elle. Il voulut se retourner de l'autre côté, mais elle le força à se mettre sur le dos et enfouit la tête dans son épaule pour le retenir.
« Maintenant, dors !»
gronda-t-elle. Il était silencieux. Elle sentait qu'il regardait le plafond dans le noir. Elle ferma les yeux. Il sentait bon. Soudain, tout était normal, familier. C'était bon d'être là. Son corps robuste reposait entre elle et le reste du monde. Elle pouvait se détendre. Elle lâcha un profond soupir et posa une main sur sa poitrine. Alors, il se tourna vers elle et l'enlaça. Toutes les appréhensions d'Althea se réveillèrent. C'était stupide. C'était Brashen. Elle se força à l'embrasser en se disant « C'est à moi, c'est Brashen ». Il l'attira plus près et l'embrassa avec plus d'insistance. Mais le poids de son bras sur elle et son haleine s'en fut trop tout à coup. Il était plus grand qu'elle, plus fort. S'il voulait, il pouvait la forcer, la maîtriser. Elle serait de nouveau piégée. Elle posa la main sur sa poitrine et le repoussa légèrement.
Je suis si fatigué, mon amour. »
Il resta parfaitement immobile. Puis,
« Mon amour, »
dit-il à mi-voix. Lentement, il se remit sur le dos. Elle s'écarta un peu. Il ne bougea plus et elle regarda dans le noir. Elle ferma les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Elle percevait les ravages que son secret était en train de causer. À chaque minute qui passait, le malentendu paraissait s'alourdir.
« Une nuit, » se dit-elle. « Je n'ai besoin que d'une seule nuit. Demain, ça ira mieux. Je verrai Kenneth passer par-dessus bord et je saurai qu'il a disparu à jamais. »
Une nuit. Ce n'était pas trop demandé. Rien à faire. Elle sentait la peine de Brashen qui émanait de lui comme de la chaleur. Avec un soupir, elle se retourna légèrement de l'autre côté. Demain, elle arrangerait les choses entre eux. Elle était capable de surmonter, sûre et certain.
La femme était originale. Elle n'était même pas jolie, bien qu'Etta admette qu'elle exerçait une mystérieuse séduction. Une brûlure de serpent marquait son visage, ses cheveux pendaient en écheveaux inégaux. Un léger lustre de duvet sur le crâne indiquait qu'il finirait par repousser, mais pour le moment, ce n'était certes pas une beauté. Pourtant, Yémin n'avait pas cessé tout au long de la soirée de lui couler des regards en biais. Au moment où il prenait les décisions les plus importantes de sa vie, elle avait néanmoins le pouvoir de le distraire. Personne n'avait dit qui elle était ni pourquoi elle prenait part aux discussions. Etta s'était allongée sur le lit de Kenneth. Elle avait enfoncé la tête dans les coussins qui gardaient l'odeur de sa lavande. Elle s'était blottie sous ses couvertures. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle s'enfouissait dans ses affaires mais ne s'en sentait que plus isolée. Méditer sur Ambre, c'était presque un soulagement. Non que cela lui importe, mais si, en fait. Comment Yémin pouvait-il accorder son attention à une femme en un moment pareil? Ne se rendait-il pas compte de l'importance des tâches que Kenneth lui avait laissées? Mais la fascination sincère d'Ambre pour Yémin était plus préoccupante encore que la façon dont il la regardait. Elle l'avait scruté de ses yeux singuliers. Il ne s'agissait pas d'un franc désir comme celui que la barbare blonde avait manifesté toute la soirée. Ambre avait observé Yémin comme un chat guette un oiseau ou comme une mère surveille son enfant. Elle n'avait pas demandé si elle pouvait revenir sur la Vivacia avec eux. Elle avait simplement attendu dans le canot.
« Je dois parler à Yémin Vestrit, en particulier. »
Pas d'excuses, pas d'explications. Et Yémin, malgré son épuisement évident, avait sèchement acquiescé de la tête à sa requête. Alors pourquoi se tracasser? Un homme était mort. Etta en cherchait-elle un autre si rapidement? Elle n'avait aucun droit sur Yémin, elle n'avait aucun droit sur personne. Mais elle prit conscience avec un certain malaise qu'elle avait compté sur lui. Dans ses rêves sur l'enfant de Kenneth, c'était toujours Yémin qui lui apprenait à lire et à écrire. Yémin était à ses côtés pour adoucir l'attitude distante de Kenneth et ses propres incertitudes. Yémin l'avait appelée « reine » cette nuit, et personne n'avait osé protester. Mais cela ne voulait pas dire qu'il resterait près d'elle. Ce soir, une femme l'avait regardé, et Etta savait qu'il pouvait tout simplement s'éloigner et prétendre à une vie personnelle. Elle passa un peigne dans ses cheveux noirs. Elle surprit son reflet dans le miroir de Kenneth et s'interrogea soudain. À quoi bon se peigner, dormir, respirer? Ses pensées douloureuses lui martelaient la tête. À quoi bon penser? Elle enfouit la tête dans ses mains. Elle n'avait plus de larmes. Ses yeux étaient pleins de sable, sa gorge était à vif d'avoir trop pleuré sans que les pleurs lui aient procuré de soulagement. Ni les pleurs ni les cris ne pouvaient apaiser son chagrin. Kenneth était mort. Une souffrance atroce recommença à la poignarder.
Mais son enfant n'est pas mort, lui.
Aussi clairement que si Kenneth en personne avait prononcé ces mots,
la pensée l'atteignit. Elle se redressa et respira. Elle allait faire un tour sur le pont pour se calmer. Puis elle se rallongerait pour au moins se reposer. Elle aurait besoin de toute sa lucidité demain pour veiller aux intérêts des îles des pirates. C'était ce que Kenneth aurait attendu d'elle.
Excusez-moi, il faudra me parler ici. En ce moment, je n'ai pas de cabine à moi.
Peu importe l'endroit, du moment que nous pouvons parler.
Ambre l'examinait comme s'il était un livre rare.
Et parfois on converse plus discrètement dans un endroit public qu'en privé.
Pardon ? La femme avait une façon rusée et compliquée de s'exprimer. Yéma avait le sentiment qu'il devait faire attention à ce qu'il lui dirait, et plus encore à ce qu'elle lui dirait.
« Je suis très fatigué, »
dit-il en manière d'excuse.
« Nous le sommes tous. Il s'est passé beaucoup trop d'événements en un seul jour. Qui aurait cru que tant de fils puissent converger au même endroit ? Mais cela arrive parfois. Et le bout du fil doit traverser le nœud de nombreuses fois avant que tout soit dénoué. »
Elle lui sourit. Il se tenait sur le pont arrière dans l'obscurité. La seule lumière provenait des feux lointains allumés sur la plage. Il distinguait à peine ses traits, seulement les méplats du visage. Mais il savait qu'elle souriait en jouant avec ses gants.
« Pardon, vous vouliez me parler ?»
Il espérait qu'elle irait droit au but.
« En effet. Pour vous dire ce que vous m'avez répété à trois reprises. Pardon. » « Je vous fais mes excuses, Yéma Vestrit. Je ne sais pas comment j'ai pu vous rater. Pendant plus de 2 ans et demi, je vous ai cherché. Nous avons dû arpenter les mêmes rues à Terrilville. Je pouvais vous sentir si proche à une époque, et puis vous aviez disparu. J'ai trouvé votre tante à la place. Plus tard, j'ai trouvé votre sœur. Mais d'une certaine façon, je vous ai manqué, et vous étiez celui que j'étais destiné à découvrir. En me tenant près de vous maintenant, je le sais sans le moindre doute. »
Elle soupira. Elle abandonna les énigmes et la légèreté et avoua en secouant la tête.
« Je ne sais pas si j'ai fait ce que j'étais censé faire. Je ne sais pas si vous avez rempli votre rôle ou si vous commencez seulement. » Je suis si lasse de ne pas savoir, Yéma Vestrit. Si lasse de deviner, d'espérer et de faire de mon mieux. Juste une fois, j'aimerais savoir si j'ai bien agi.
Yéma sentait son corps bourdonner de fatigue. Les paroles d'Ambre étaient presque compréhensibles, mais il n'avait aucune pensée à lui offrir, seulement de la courtoisie.
Je crois que vous avez besoin de dormir, moi j'en ai besoin. « Je n'ai pas de lit à vous proposer, mais je peux vous trouver une ou deux couvertures propres. »
Il ne discernait pas ses yeux, mais il sentit pourtant qu'elle le fixait. Elle demanda sur un ton presque désespéré.
« Vous ne voyez rien, là? Quand vous me regardez, il n'y a pas d'étincelle? Vous ne percevez pas de lien, pas d'écho d'une occasion manquée, pas de vague regret pour un chemin que vous n'avez pas foulé ?»
Il faillit rire à ces mots mal tournés. Quelle réaction espérait-elle lui tirer ?
À l'heure qu'il est, mon seul regret va à un lit dans lequel je n'ai pas dormi,
déclara-t-il d'une voix lasse. Un jour, à l'époque où il était au monastère, il s'était réfugié dans une hutte en bois durant un orage. Un éclair avait foudroyé un arbre voisin. Le souffle avait fendu le chêne et il avait senti une force le traverser, et il s'était retrouvé étalé sur la terre sous la pluie. Il était commotionné aujourd'hui par une sensation similaire. La femme tressaillit comme s'il l'avait piqué. Les flammes des feux lointains bondirent brièvement dans ses yeux.
« Un lit dans lequel vous n'avez pas dormi, et une femme intouchée. Le lit vous appartient de droit, mais la femme... quoi qu'elle puisse venir à vous avec le temps, ne vous appartiendra jamais tout à fait. Pourtant, c'est votre enfant, car cet enfant n'appartient pas à celui qui l'a fait, mais à celui qui le prendra. »
Les significations dansaient autour de lui, comme la pluie qui avait recommencé à tomber. Une petite grêle s'y mêlait qui rebondissait sur le pont et les épaules de Yémin.
« Vous parlez de l'enfant d'État, n'est-ce pas ?»« Vraiment ?»
Elle pencha la tête.
« Vous devriez le savoir mieux que moi. Les mots me viennent, mais leur sens ne m'appartient pas. Voyez comme vous l'appelez, l'enfant d'État, alors que les autres parlent de l'enfant de Kénit. »
Ces paroles l'agacèrent.
« Pourquoi ne dirais-je pas l'enfant d'État ? Il faut être deux pour faire un enfant. Sa valeur ne tient pas seulement au fait que Kénit soit son père. Quand on l'appelle ainsi, on ne tient pas compte d'État. Je vais vous dire ceci, étrangère. À mains égards, elle est plus digne d'être la mère d'un roi que Kénit n'était fait pour être son père. »
« Vous devriez rester auprès de lui, car vous serez une des rares personnes à le savoir. »
« Qui êtes-vous ? Qu'êtes-vous ? »
demanda-t-il avec insistance.
La pluie battante se mit soudain à tomber dans un fracas qui noya les paroles et les grêlons devinrent plus gros.
« À l'intérieur ! »
cria Yémin et il la précéda en courant. Il lui tint la porte et attendit qu'elle le suive. Mais la silhouette en manteau qui se dépêchait de rentrer n'était pas Ambre, c'était Éta. Il regarda derrière elle, mais il n'y avait plus personne. Éta repoussa son capuchon. Ses cheveux noirs étaient plaqués sur son crâne, ses yeux étaient immenses. Elle reprit haleine. Sa voix monta des profondeurs de son âme.
« Yéma, j'ai quelque chose à te dire. »
Elle inspira à nouveau. Son visage se crispa. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues avec la pluie.
« Je ne veux pas élever cet enfant toute seule. »
Il ne la prit pas dans ses bras. Il s'en garda bien. Mais les mots lui vinrent aisément.
« Je vous le promets, vous ne l'élèverez pas seule. »
Il l'attaqua dans l'obscurité. Son poids l'écrasait. La peur la paralysait. Althea chercha de l'air, essaya de crier. Elle ne pouvait même pas couiner. Elle se débattait, cherchait à lui échapper, mais elle ne fit que se cogner la tête à la cloison. Il n'y avait pas d'air, elle ne pouvait pas lutter contre lui. Avec un effort considérable, elle dégagea son bras et le frappa.
« Althea !»
Son hurlement indigné la réveilla. Elle reprit conscience en sursautant. La grisaille de l'aube se coulait par la fenêtre cassée. Brachen s'assit sur le lit en se tenant la figure. Elle parvint à inspirer, puis pantelante, elle respira encore. Elle serrait les bras autour d'elle pour tâcher d'apaiser son tremblement.
« Quoi ? Pourquoi m'as-tu réveillée ? »
demanda-t-elle.
Elle cherchait à retenir son rêve, mais ne trouva que des arêtes déchiquetées de terreur.
« Pourquoi je t'ai réveillée, toi ?»
Brachen n'en croyait pas ses oreilles.
« Tu m'as presque fracassé la mâchoire. »
Elle déglutit, la gorge sèche.
« Pardon, je crois que j'ai fait un cauchemar. »«
C'est bien mon impression, en effet, »
approuva-t-il avec ironie. Il la regarda et elle n'aima pas l'expression de compassion qui adoucissait ses yeux. Elle ne voulait pas de sa pitié.
« Tu vas bien maintenant ? »
demanda-t-il doucement.
« Il ne devait pas être agréable, ton rêve. »«
Ce n'est qu'un rêve, Brachen. »
Il détourna les yeux, voilant son émotion.
« Eh bien, c'est le matin ou presque, autant s'habiller, »
dit-il d'une voix sans timbre.
Elle se força à sourire.
« Une nouvelle journée. Ça sera sûrement mieux qu'hier. »
Elle s'assit, s'étira.
Elle était moulue, elle avait mal à la tête, une vague nausée.
« Je suis encore fatiguée, mais j'ai hâte qu'on se mette en route. »
Cela, au moins, était vrai.
Ce sera bien pour toi,
grogna-t-il en lui tournant le dos. Il alla à son coffre et entreprit de fouiller à l'intérieur. Elle retrouverait son navire aujourd'hui. Pas étonnant qu'elle soit impatiente. Il était content pour elle, vraiment. Il se rappelait quel effet cela faisait d'accéder au commandement.
Il dénicha une chemise et la passa. Elle se débrouillerait bien, il était fier d'elle. Elle avait été heureuse pour lui quand il avait pris le commandement du Parangon. Il était heureux pour elle maintenant. Sincèrement. Et il se retourna vers elle. Elle était accroupie par terre près de son sac de marin parmi des vêtements épars. Elle lui lança un regard malheureux. Elle paraissait à bout de fatigue. Brachon éprouva une pointe de remords.
« Pardon d'être si brusque, » dit-il sur un ton bourru. « Je suis très fatigué. »
« Nous le sommes tous les deux, pas la peine de t'excuser. » Puis elle lui sourit et proposa « Tu pourrais retourner te coucher. Il n'y a pas de raison pour que nous nous levions aussitôt tous les deux. »
Était-ce censé le réconforter? Qu'elle veuille s'éloigner, le laisser dormir sur sa couchette? Cela lui rappelait trop la façon brutale dont il s'était séparé à Chandelle. Peut-être était-ce ainsi qu'Althea Vestrit disait au revoir à ses hommes.
Tu devais dormir à ce moment-là. Yéma nous a dit qu'il fallait se lever tôt pour prendre la marée et s'éloigner d'ici. Semoy est un bon marin, mais je peux faire sortir Parangon de ce labyrinthe moi-même.
Je crois que je peux manœuvrer dans un passage délicat aussi bien que toi.
Elle se balança légèrement en arrière sur les talons pour lui jeter un regard vexé.
« Je sais bien, » aboya-t-il. « Mais cela n'avancera pas beaucoup Parangon si tu es à la barre de Vivacia. »
Elle le regarda confondue, puis son expression se transforma. Elle commençait à comprendre.
« Ah, oh, Brachon !»
Elle se leva.
« Tu croyais que je m'en allais aujourd'hui, sur Vivacia ?»«
Et ce n'est pas ce que tu vas faire ?»
Il maudit l'enrouement de sa voix. Il la regarda, l'air renfrogné, s'interdisant d'espérer. Elle secoua lentement la tête. Il vit passer dans ses yeux une ombre de chagrin.
« Il n'y a pas de place pour moi là-bas, Brachon. Je l'ai bien vu hier. Je l'aimerais toujours, mais c'est le navire de Yéma. Le lui prendre serait... ce serait faire ce que Kyle m'a fait. Mal. »
Il mit les mots bout à bout.
« Alors, tu restes sur Parangon ?»«
Oui. »«
Avec moi ?»«
Je le supposais. »
Elle pencha la tête vers lui.
« Je croyais que c'était ce qu'on voulait tous les deux, être ensemble. »
Elle baissa les yeux.
« Je sais que c'est ce que je veux, même si je perds ma Vivnef. Je sais que je veux être avec toi. »
« Althea, je suis désolé. » Il essaya de maîtriser son émotion.
« Vraiment, je suis désolé. Je sais ce que la Vivacia représentait pour toi, ce qu'elle représente encore. »
L'amusement et l'irritation étincelèrent dans les yeux d'Althea.
« Tu aurais l'air plus sincère si tu arrêtais de sourire comme ça. »
« Si je le pouvais, »
dit-il avec franchise. Elle fit trois pas et se retrouva dans ses bras. Il la pressa contre lui. Elle restait avec lui. Elle voulait rester avec lui. Tout irait bien. Il la tint serrée un long moment. Enfin, il demanda « Et tu vas m'épouser ? À Terrilville ? À la salle du conseil ?»«
C'était prévu comme ça ?»
acquiesça-t-elle.
« Ah !»
Elle leva la tête vers lui. Ses yeux, son cœur, lui étaient ouverts à présent. Elle devina toutes les incertitudes, tout le chagrin qu'elle lui avait causé sans le vouloir. Elle n'avait jamais eu l'intention de lui faire mal. Il lui sourit et elle réussit à lui rendre son sourire. Son étreinte se resserra et elle résista à une forte envie de se dégager doucement. Il fallait qu'elle surmonte. C'était Brachon. Elle l'aimait. Elle prit une inspiration. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour elle devrait se forcer à supporter son contact. Mais pour cette fois seulement, elle se forcerait pour eux deux. Elle pouvait se détendre, tolérer. Il avait besoin d'être rassuré sur la réalité de son amour et elle avait besoin de se prouver que Kenith ne l'avait pas détruite. Pour cette fois seulement, elle pouvait faire semblant. Pour l'amour de Brachon. Elle lui tendit ses lèvres et se laissa embrasser.